C'est l'émission Les Voix de service quotidien de ce jeudi 16 novembre 2017. Bonjour et bienvenue, Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je vais très bien.
Je vous entendais siffloter dans les corridors.
Ah, ça m'arrive.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous nous chantez de bon aujourd'hui aux éphémérides?
16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance.
Bon, alors quand vous allez siffler, je vais essayer de vous tolérer.
Exact, soyez tolérante en fait. En 1532, à Caxamalca, au Pérou, le conquistador Francisco Pizarro capture le dernier empereur Inca, Atahualpa. Il sera baptisé et supplicié à mort. En 1885, à Regina, Louis Riel, meneur de la rébellion des Métis, est pendu pour haute trahison. Ça m'a bien fait rire. En 1901, à Brooklyn, imaginez-vous que trois automobilistes atteignent la vitesse inouïe de 60 000 à l'heure, soit 96 km à l'heure.
Vitesse inouïe, pourquoi?
Vitesse inouïe, ben pour l'époque.
Ah oui. On est en quelle année déjà?
1901.
Ah oui.
Quand même, presque 100 km à l'heure. Il n'aurait pas pu rouler sur... Peu importe. 1934, c'est la fondation de l'Orchestre symphonique de Montréal. En 1945, c'est la création de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour ceux qui s'intéressent au sport, en 1957, Notre-Dame mettait fin à la suite glorieuse de Oklahoma qui a gagné toutes ses parties en 4 ans, soit 1512 jours ou 47 parties. En 1959, à New York, la comédie musicale The Sound of Music est créé sur scène avec Mary Martin en tête d'affiche. 1966, inauguration de la première centrale nucléaire au Canada à Douglas Point en Ontario. Un typhon en 1970 suivi d'un raz de marée balaie le golfe du Bengale causant quelques 500 000 morts selon le Pakistan Oriental, c'est un journal. 1982, fin de la grève de 72 jours des joueurs de la Ligue nationale de football. 1989, en Afrique du Sud, le gouvernement abroge la Separate Amnesties Act qui imposait la ségrégation sur les plages publiques. 1994, en Saskatchewan, Robert Latimer est reconnu coupable du meurtre de sa fille gravement handicapée. Ce sera le début d'un long débat sur le suicide assisté et le meurtre par compassion. En 2001, c'était le premier film de Harry Potter qui était sur nos écrans. Un avion hypersonique en 2004 sans pilote. Je vais recommencer ça. En 2004, un avion hypersonique sans pilote de la NASA atteint Mach 10, donc 10 fois la vitesse du son, soit 11 000 km à l'heure, ce qui est un peu plus vite qu'en 1901, on doit l'avouer. Et Michael Applebaum est élu maire intérimaire de Montréal par les membres du conseil municipal. Et pour ce qui est des naissances, le poète Louis Fréchette, qui est né à Lévis en 1839, qui est décédé en 1908, et l'Américain, et un décès, 1960, l'Américain Clark Gable, le roi de Hollywood, qui a fait ses débuts, je pense, dans le film « Autant en emporte le vent », nous a quittés un 16 novembre 1960.
Merci pour cette belle chronique.
Avec plaisir.
À la une de la presse, les salades du chef Giovanni Apollo. Depuis deux décennies, le chef cuisinier vedette du petit écran raconte des salades au public québécois. La presse a fait enquête. Exclusif dans la section Affaires juste pour rire, des retombées de 84,4 millions de dollars. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « Procès de la brusquerie ordinaire ». Et mort d'une probable surdose, l'ex-collecteur de fonds libéral Marc Bruneau était un sujet d'intérêt pour l'UPAC. Énorme dossier signé Isabelle Haché et je vous en lis une partie, un parcours jalonné de mensonges. en août 2015, le chef Giovanni Apollo a ouvert le Pasta Polo, son premier restaurant à Québec, puisqu'il avait déclaré y servir les recettes traditionnelles de sa mama italienne. Il avait décoré les murs de l'établissement de photos de son enfance. Le Journal de Québec a publié l'une d'elles en noir et blanc, montrant quatre gamins à l'air espiègle, un tramway à l'arrière-plan. Un jeune Giovanni Apollo dans le petit village italien de la côte amalfitaine où il a grandi, disait la légende. Le problème, c'est que le cliché en question a été croqué près de 20 ans avant la naissance du chef cuisinier. Il s'agit de l'œuvre d'un photographe italien, Mario Cattaneo, qui a documenté les rues animées de Naples au début des années 50. Né le 2 janvier 1970, Giovanni Apollo n'a jamais vécu dans un petit village italien de la côte amalfitaine. Il n'a pas davantage vécu à Naples, en fait, il n'a jamais vécu en Italie. Et il ne se prénomme pas Giovanni, il s'appelle Jean-Claude. Il est né à Bourg-en-Bresse, en France. Il a grandi dans la région de Lyon. Bien que ses parents soient d'origine italienne, il ne possède pas la citoyenneté de ce pays. Contrairement à ce qu'il raconte aux journalistes depuis 2 décennies, Jean-Claude Apollo n'a donc jamais quitté l'Italie à 13 ans pour rejoindre Paul Bocuse. De son propre aveu, il n'a même jamais été l'élève du chef le plus célèbre de la gastronomie française. Notre enquête montre que depuis son arrivée au Québec en 1994, le chef hautement médiatisé a menti sur son nom, son âge, son pays d'origine, ses qualifications et même sur les produits prétendument rares et exotiques qu'il vendait dans ses restaurants. Monsieur Apollo a aussi emprunté de l'argent à plusieurs personnes pour réaliser ses projets à Montréal. Bon nombre d'entre elles affirment n'avoir jamais été remboursées. Selon une source, ce serait le cas de l'entrepreneur Tony Accurso, qui n'aurait jamais revu la couleur des 2 millions de dollars prêtés au chef cuisinier en argent, matériaux et travaux de construction. Bien qu'il affirme être natif d'Italie sur son propre site web, apollorecettes.com, le cuisinier admet en entrevue avec la presse être né en France de parents immigrés italiens. Il admet aussi ne pas être l'enfant de la photo affichée dans son resto de Québec, aujourd'hui fermé, et prétend avoir voulu faire une blague. « C'est une joke, ça, vraiment », plaide-t-il. M. Apollo affirme qu'il n'a jamais dit avoir été formé par Paul Bocuse. « J'ai dit que j'avais été formé par les élèves et les disciples de Paul Bocuse, ce qui est bien différent. Nos recherches montrent pourtant que le cuisinier a bel et bien raconté avoir été formé par Bocuse à de nombreux médias, en plus de s'en être enorgueilli dans son profil LinkedIn et dans son livre de recettes Apollo, publié en 2007. Joint par la presse à Saint-Martin, Joe Apollo juge que le Québec a été très naïf en ce qui concerne son frère cadet. « Cela fait 15 ans que je ne lui parle pas à cause de cela », nous a-t-il confié lorsque nous l'avons interrogé sur les incohérences dans le discours de Jean-Claude Apollo au sujet de son parcours professionnel. « Dans ma famille, personne ne lui parle. Nous, on ne comprend pas, nous. Donc, comment vous, vous voulez comprendre ?» Joe Apollo affirme avoir tenté de mettre son frère en garde en lui disant « Regarde, un moment, il faut que tu t'arrêtes. » Et il n'a jamais arrêté. La chronique de Patrick Lagacé est titulée « Procès de la brusquerie ordinaire ». Je veux bien qu'on se mette à traquer des mononcles aux mains baladeuses, des harceleurs et des agresseurs qui ont martyrisé des gens parce qu'ils étaient en position de pouvoir, j'approuve. Et les journalistes ont un job à faire là-dedans. Mais ce que Radio-Canada a fait à Gilbert Sicotte hier m'apparaît parfaitement sidérant. J'ai vu passer le topo sur Twitter à l'heure du souper. Gilbert Sicotte, suspendu par le Conservatoire d'art dramatique suite à des allégations d'abus de pouvoir. J'ai lu ça et je me suis préparé à des révélations explosives dans le contexte où les reportages médiatiques font tomber d'authentiques malades du cul et de la tête, des Louis C.K., des Éric Salvay, des Sylvain Charbonneau, Archambault, des Gilbert Rozon, des Kevin Spacey. Puis, j'ai vu le topo qui présente des élèves en théâtre qui ont eu Gilbert Sicotte comme enseignant et qui en gardent un mauvais souvenir. Et je me suis dit, c'est tout? Juste ça? Crier après une élève en art dramatique, c'est du mépris, c'est du harcèlement psychologique? Dire à un élève en art dramatique « je vais te casser », c'est une forme de cruauté si pointue que ça vaut plus de 8 minutes à la télévision d'État. Ça justifie de parler d'abus de pouvoir et de victimes. Désolée, mais là, je décroche. Je veux bien qu'on traque des gens qui, grâce à leur statut, grâce au pouvoir de la renommée et de l'argent, ont pu commettre des actes qui flirtent avec le code criminel ou qui attentent à la dignité humaine. Je pense que c'est sain, ces enquêtes. Mais ce qui est reproché à Gilbert Sicotte dans ce topo, ce n'est pas du tout dans ces eaux-là. Même si ça surfe sur cette vague-là, ça n'a rien à voir avec ce qui est reproché aux salauds qui ont fait la manchette ces derniers temps. Je trouve sidérant qu'on lui fasse ces mauvais procès sur la foi des allégations présentées dans le contexte actuel. Ce qui est reproché à Gilbert Sicotte, c'est une certaine brutalité. Soit, parfait. Je suis sûre que c'est brutal, un cours de Gilbert Sicotte, un cours dans ses écoles de formation d'acteurs. Mais il y a un malentendu immense ici. Le comptable de Saint-Eustache, quand il a parlé de ce topo avec sa cousine enseignante de Chicoutimi, c'est sûr qu'ils ont dû trouver Gilbert Sicotte bien effrayant et bien méchant. Mais le malentendu, c'est de penser que ce n'est pas un métier brutal. Ce l'est. C'est un sport brutal joué, un sport de contact avec soi-même. Le malentendu, c'est de penser que Gilbert Sicotte a été pendant 25 ans une exception chez les enseignants en théâtre. Le malentendu, c'est de penser que cette brutalité n'est pas inhérente au métier et à la formation d'acteur. C'est brutal, chercher des émotions au fond de soi. Un comédien hier me disait ceci. Jouer à son meilleur, c'est aller fouiller dans son propre jardin secret, là où dort toute la palette des émotions humaines. Mais t'es à l'École nationale, t'es au conservatoire dramatique, t'as 20, 21, 22 ans, et t'apprends à jouer. Et c'est dur, et le prof ne te chouchoute pas. Faut que tu le trouves, ton jardin secret. Le prof est là pour t'aider à le trouver et des fois ça implique d'être dur, d'être brusque, de brasser l'élève pour brasser un peu la terre du jardin secret, pour en exhumer les émotions. Quant à la phrase « je vais te casser », elle peut sembler flirter avec la méchanceté, ce que ça peut l'être selon le contexte. Je suis convaincue que Sylvain Archambault l'était méchant, qu'il traversait la ligne entre la brusquerie et l'indignité. Le même comédien hier m'a dit ceci. J'ai des tics, j'ai des trucs qu'il a fallu casser. Et quand un metteur en scène a décidé de les casser, tes tics, tes défenses, ça ne se fait pas dans la douceur. Métier d'émotion, enseigner avec émotion, quelque chose comme ça. Un autre comédien qui a eu Sicotte comme prof m'a dit ceci. Il est rough, il est dur, avec tout le monde. J'ai aimé l'avoir comme prof. Je l'ai vu faire des colères, mais ses colères étaient justifiées. Tu te fais dire des choses très dures quand tu es formé comme acteur, mais ça te prépare à la pratique du métier, parce que le métier, lui, va être encore plus dur que l'école. Je trouve donc que les faits et allégations présentées aux téléspectateurs ne valaient absolument pas 8 minutes de temps d'antenne à la télé publique. Si Gilbert Sicotte vaut 8 minutes de temps d'antenne, bordel, comment vaut la famine au Yémen? Mais le pire dans le topo, c'est quand le journaliste interviewe Sicotte, Saint-Jean-la-mine patibulaire qu'affichait Alain Gravel quand il interviewait d'authentiques filous pour enquête. Sicotte dit « Mon but n'a jamais été de vouloir humilier quelqu'un. Il est possible que des fois je puisse m'enflammer si on n'apprend pas les textes. Le journaliste, au point de crier après les étudiants, là, c'est moi qui criais. » C'est ce que dit Patrick Lagacé. « Vit-on vraiment dans ce monde-là où il faut toujours chuchoter, chouchouter ou crier n'est jamais, jamais, jamais justifiable dans aucun domaine, jamais au diable le contexte et la culture? » Sicotte s'expliquait mal à l'aise, il bredouillait. Il a commencé à dire parce que ça n'a pas été, parce que ça devait faire 10 fois, 12 fois, il cherchait ses mots. Boum, le journaliste l'a interrompu et il lui a demandé, comme si son invité s'était jadis moqué d'une vieille dame tombée sur le trottoir par un matin de verglas, au point de sacrer. Là, j'ai hurlé. Là, j'ai sacré. J'espère qu'aucun boss ni aucune star de l'information n'a jamais sacré ni crié après un journaliste à Radio-Canada ces 25 dernières années. Je soupçonne que si, je pourrais trouver des noms. Ça vous ferait un super topo, 12, 13 minutes peut-être. Je déconne, mais nous en sommes donc rendus là à faire des topos procès sur la brusquerie ordinaire avec un ton réservé à débusquer des gens qui auraient détourné des fonds publics ou égorgé des chatons. Le Conservatoire d'art dramatique, lui, a annoncé que Gilbert Sicotte était suspendu. Je suis surpris dans le climat actuel qu'on ne l'ait pas simplement fait fusiller dans la ruelle. Ce topo, c'est tout comme.
Moi, je viens du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église et puis recousaient les chemises. Mes grands-pères travaillaient la terre puis faisaient souche avec leur verre. Je viens d'un peuple de travailleurs. Je viens d'un père qui se lève à l'heure. Ma mère coupait les cheveux puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guitare puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis ton chum. Ensemble, on doit rien à personne. Moi, je viens d'un arbre et d'un ruisseau. Je viens d'un désir et de quelques mots. Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains. Ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers des abattoirs, les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, les monteurs d'acier dans le ciel, les mères qui se tapent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires. Ceux qui ont la parole modeste et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guitare puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis ton chum. Ensemble, on doit rien à personne. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis ton chum. Ensemble, on doit rien à personne.
De son album Le Temps des Vivants, c'était Vincent Vallière qui nous chantait à hauteur d'homme.
À la une du Devoir, le retour des casques bleus canadiens attendra. Justin Trudeau veut repenser de quelle façon on s'engage dans les missions de paix de l'ONU. Vallée nomme un policier à un poste de juge de paix. La juge en chef de la Cour du Québec se félicite de pouvoir compter sur l'expertise particulière de cette recrue. Alimentation, le virage 100% bio est possible selon une étude. Une révolution agricole suppose toutefois des changements de comportement. Qu'adviendra-t-il de l'immeuble des sourdes muettes? Citoyens, commerçants et élus locaux s'inquiètent pour l'édifice de la rue Saint-Denis. Humour, Dr Mobilo, un rire rebelle assumé. À l'ENA, les Canadiens se préparent à un échec. Et Zimbabwe, Mugabe assigné à résidence. Les Nations unies et la communauté internationale attendaient depuis plus d'un an que Justin Trudeau précise à quelle mission de paix le Canada se joindrait. La réponse viendra dans encore plusieurs mois. Car bien que le premier ministre leur ait promis hélicoptères, avions, formation et une équipe d'intervention d'urgence de 200 soldats, les détails, eux, se font toujours attendre. Ottawa n'a pas encore déterminé dans quel pays et de quelle façon il déploiera ses effectifs. La nature des conflits a changé. Les besoins des opérations de paix aussi, a fait valoir le premier ministre devant la conférence internationale qui réunissait les représentants de 70 gouvernements à Vancouver pour les convaincre de contribuer davantage aux opérations de paix de l'ONU. Ce changement de contexte, c'est ce qui explique la promesse ajustée de Justin Trudeau à l'endroit des Nations unies. Le Canada est prêt à aider à mener la charge afin de repenser de quelle façon on s'engage et non plus seulement dans quel pays on s'engage, a-t-il lancé dans son discours à ses invités. S'il promettait en août 2016 de déployer jusqu'à 600 soldats et 150 policiers dans une ou deux missions de paix de l'ONU, Justin Trudeau compte maintenant repartir ses forces au sein de divers engagements plus ciblés. C'est vrai que c'est moins clair que de dire qu'on va envoyer tout le monde dans un pays, a-t-il consenti aux journalistes qui lui demandaient si l'ONU ne serait pas déçue de ce changement de cap. Mais l'ONU a été très claire, a-t-il insisté. C'est ce genre d'engagement qui les aide le plus. Moins d'un an après l'éclatement de la crise de l'écoute électronique de journalistes, les juges de paix magistrats ont accueilli dans leur rang l'expert en demande d'autorisation judiciaire du SPVM, Pierre-David Cyr. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a préféré le policier de carrière aux autres candidats en lice. Pierre-David Cyr cumulait au moment de sa nomination plus de deux décennies d'expérience au service de police de la Ville de Montréal. Il a notamment œuvré à la direction des affaires internes après avoir été sergent détective au module de polygraphie. Un bon nombre d'affidavits relatifs à de l'écoute électronique ont atterri entre ses mains. Mme Vallée a retenu la candidature de M. Cyr parmi celles soumises par un comité de sélection pour pourvoir un poste de juge de paix magistrat dans le district de Montréal. Elle a pris la décision, sa décision, le 20 septembre avant la publication du rapport de la commission Chamberlain ou encore l'entrée en vigueur de la loi fédérale retirant des mains des juges de paix magistrats le pouvoir de délivrer un mandat de surveillance à l'encontre d'un journaliste. Au quartier général du SPVM, plusieurs personnes se sont étonnées de voir un de leurs confrères sélectionné pour pourvoir un poste de juge de paix magistrat. Un policier nommé juge, ça n'arrive pas tous les jours à lancer un agent dans un échange avec le devoir. Ici, c'est un événement. La victoire de Sylvie Parent à la mairie de Longueuil a été confirmée mercredi à la suite d'un dépouillement judiciaire demandé par la candidate des faits, Josée Latendresse. Lors du scrutin du 5 novembre dernier, l'écart entre Sylvie Parent et Josée Latendresse n'avait été que de 118 voix. Il a été réduit à 110 voix. Madame Latendresse pourrait toutefois s'adresser à la Cour supérieure pour contester le résultat. Même si elle conserve la mairie, Sylvie Parent sera minoritaire au conseil municipal puisqu'elle n'a réussi à faire élire que 5 candidats au poste de conseiller contre 9 pour Josée Latendresse, alors qu'un siège sera occupé par un élu de l'équipe de Sadia Grosguet. Valérie Plante assermentée jeudi. À 24 heures de la cérémonie d'assermentation au cours de laquelle elle deviendra officiellement la première mairesse de Montréal, Valérie Plante s'est rendue mercredi dans les locaux de Jeunesse au Soleil. Elle y a notamment rencontré Charles Bélangéro, un employé de l'organisme qui lancera bientôt sa campagne annuelle de panier de Noël. Comme les autres élus montréalais, Valérie Plante prêtera serment jeudi après-midi, donc cet après-midi, lors d'une cérémonie qui se tiendra au marché Bon Secours. Elle pourrait dès vendredi annoncer la composition de son comité exécutif qui doit tenir sa première réunion la semaine prochaine. Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi la nomination de Philippe Bourque au poste de président du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Biologiste de formation, il a notamment occupé pendant 20 ans le poste de directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Philippe Bourque occupait depuis janvier le poste de vice-président développement stratégique et affaires publiques chez Réseau Environnement, un organisme à but non lucratif qui représente des membres experts en environnement au Québec. Il succède à Pierre Barry, dont le mandat vient de se terminer. Le gouvernement doit également nommer incessamment un nouveau vice-président au BAP, puisque le mandat de Louis-Gilles Francoeur, ancien journaliste du Devoir, arrive à échéance le 19 novembre. Avec l'ouverture imminente du site d'injection de spectre de rue à un coin de rue d'une école primaire, un groupe de parents s'inquiète d'une cohabitation qu'ils jugent risquée. On sait que l'acceptabilité sociale, dis-je bien, est jugée primordiale pour qu'un projet de cette nature fonctionne, mais celle-ci n'est manifestement pas au rendez-vous dans le quartier, dénonce Christelle Perrine, présidente du conseil d'établissement de l'école primaire Marguerite Bourgeois, mère de 3 enfants, résidente et commerçante du quartier. Avec l'appui de leur commission scolaire, Stéphanie Bellinger-Heng, ses parents, réclament une présence policière accrue dans ce corridor scolaire et l'ajout d'un brigadier, une figure rassurante pour les enfants et leurs parents. Merci d'écouter Canal M. Ici Hélène Denis. Je vous invite à rester avec nous. La suite de l'émission dans un moment avec la revue de presse du Journal de Montréal.
On a de tout temps chanté les nuits de Paris,
la place Pigalle,
Montmartre, les Halles.
Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau.
Oui, mais ici,
on a aussi
des filles jolies,
des cabarets,
des boîtes de nuit.
Pour y chanter dans la gaieté des airs légers, j'aime les nuits de Montréal. Ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux. À Montréal, c'est merveilleux.
Mais il se fait tard,
non, plutôt il est tôt.
La rue a mis son blanc tapis.
Jamais comme ce matin, je n'avais remarqué
combien la neige
pouvait glisser.
Déjà 7 heures.
Bonjour facteur.
Bonjour laitier.
Vous commencez votre journée, on va se coucher. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux. À Montréal, c'est merveilleux.
Thank you.
soupir. De ma fenêtre, j'aperçois la cohue
dans les avenues
et dans les rues. J'ai le teint blafard,
un peu le cafard.
Oui, mais ce soir, lorsque la nuit viendra pour nous tout renaîtra. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête,
je chante.
Le ciel est bleu,
la vie m'enchante.
Il y a des chansons dans le piano, il y a de l'espoir dans tous
je
les
chante
yeux
encore, je chante.
Et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend
à Montréal?
Qu'est-ce qu'on attend?
C'est merveilleux
à Montréal, c'est
Christine Tassin et les Imposteurs nous chantaient Les Nuits de Montréal. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? De l'album Pas Manouche, c'est louche.
À la une du Journal de Montréal de ce jeudi 16 novembre 2017, champion d'haltérophilie à 84 ans, Marcel Perron participera au championnat canadien des maîtres en haltérophilie ce week-end à Montréal. Il vise 80 kg à l'épaulé jeté et 60 kg à l'arraché. « Je ne veux rien savoir de la retraite », dit-il, alors qu'on le voit en train de lever un halter. Québec pourrait signer un autre bail avec une firme de Marc Bibeau. Party de libéraux, des ministres confirment leur présence. On voit les photos de Philippe Couillard et sous cette photo, c'est écrit « présent ». Aussi, Geoffrey Kelly, présent. Madame Jérôme Forgette ne se souvient pas. Madame Boulet, pas de commentaires. Lynn Beauchamp, pas de souvenirs. Et Michel Courchesne, il faisait noir. L'Agence mondiale antidopage reste à Montréal jusqu'en 2031. L'organisme pourrait même y augmenter de 85 à 105 son nombre d'employés. L'organisme a adopté au cours des dernières heures à Séoul, en Corée du Sud, le maintien de son bureau principal à Montréal pour la période 2021-2031. On est ravis, ça représente le résultat qu'on espérait, s'est félicité le ministre canadien des Transports, Marc Garneau, venu défendre le dossier devant l'insistance d'après des propos de l'AFP, l'Agence France-Presse. Au printemps dernier, l'organisation réfléchissait à la possibilité de déménager son siège social. Des hauts dirigeants avaient alors été mandatés pour négocier une nouvelle entente avec les gouvernements du Québec et du Canada en vue de rester à Montréal. Selon cette entente, les gouvernements fédéral et provincial ont proposé d'augmenter leur contribution financière à l'organisme pour qu'elle passe de 1,9 à 3 millions de dollars par année à compter de 2021. Cela représente un montant total de 35 millions pour l'entente qui se termine en 2031. Montréal est la troisième ville au monde où l'on compte le plus d'organisations internationales, soit 65 après New York et Washington, rappelle également M. Bolduc, financé par le CIO et les gouvernements de l'AMA. Financée par le CIO et les gouvernements, l'AMA a été fondée en 1999 à Lausanne, en Suisse, où elle a son siège juridique. Son quartier général se trouve à Montréal depuis 2001. des soirées chez Bibeau du passé, dit Couillard. Le premier ministre reconnaît toutefois avoir participé à au moins une des réceptions de l'argentier libéral. Cet événement-là, c'était un événement social, a affirmé Philippe Couillard au Salon Bleu hier matin. Moi, j'y étais présent et ce n'était rien d'autre que des rencontres entre les gens. Notre bureau d'enquête révélait hier matin que le collecteur de fonds du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau, a organisé chez lui au moins 7 somptueuses réceptions au début des années 2000 pour mettre en contact des élus libéraux et d'importants membres de la communauté d'affaires. Sur la liste des invités des événements de 2003 et 2004, on retrouvait notamment Philippe Couillard, Julie Boulet, Lise Thériault et Geoffrey Kelly, qui siègent toujours au Conseil des ministres. Du côté des gens d'affaires, les invités incluaient plusieurs patrons de firmes de génie conseil tels que Dassault, Texult, Sima+, Groupe SM et Genivar. Les quelques ministres qui ont accepté de commenter les révélations de notre bureau d'enquête ont également insisté sur l'évolution des pratiques de financement depuis le début des années 2000. Moi, je dis globalement, tout parti confondu, autre temps, autre mœurs, a résumé le ministre Robert Poitiers, qui a été élu pour une première fois en 2012. Le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan, lui, plaide que les événements remontent à près de 15 ans. Je pense qu'il y a un peu d'acharnement dans ça, mais je ne peux pas empêcher les gens de faire leurs enquêtes, a-t-il ajouté, sans spécifier s'il visait les médias ou l'UPAC qui s'intéresse aux liens entre Marc Bibeau et le gouvernement Charest. Et puis, à la une, je vous disais tantôt qu'il y avait Michel Courchesne qui disait « il faisait noir », juste pour préciser, l'ex-ministre Michel Courchesne dit n'être allé chez M. Bibeau qu'une fois. Elle se rappelle que des collègues y étaient et qu'il faisait noir. Un collecteur de fonds retrouvé mort. La police soupçonne une overdose de fentanyl. L'ex-candidat du Parti libéral du Canada, Marc Bruneau, ou Marc Bruneau, a été retrouvé mort dans son condo de Montréal mardi, après avoir succombé à ce que la police soupçonne être une overdose de fentanyl. Un record d'indemnité de départ pour une ex-élue montréalaise, l'ex-mairesse de Villeray, Annie Sanson, défaite aux dernières élections, battra le record des indemnités de départ pour un élu municipal en empochant près de 280 000 $, soit 90 000 $ de plus que Denis Coderre. Selon les estimations du Journal de Montréal, l'ex-mairesse d'arrondissement, Annie Sanson, empochera une allocation de transition de 150 000 $ environ, ce qui équivaut à un an de salaire qui lui sera payé en 26 versements aux deux semaines. La rémunération de Mme Sanson est élevée parce qu'elle a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'administration Coderre. Derrière Mme Sanson, plusieurs élus se partageront de gros montants, toujours selon nos calculs. En deuxième position, on retrouve l'ex-maire Denis Coderre qui devrait toucher près de 192 000 $, soit 167 000 $ pour l'allocation de transition, mais seulement 25 000 $ en indemnité de départ puisqu'il n'a siégé que 4 ans à l'Hôtel de Ville. Quant à Richard Bergeron, qui semble vouloir retrouver un poste auprès de la nouvelle mairesse Valérie Plante, il aura droit à 184 000 $ environ pour patienter. Pour parvenir à ces résultats, le journal a dû faire ses propres estimations à partir de la base de calcul de la Ville, car les montants officiels ne seront rendus publics qu'en janvier. Québec renonce à diminuer à 4 places le ratio maximal d'enfants pouvant être accueillis dans une garderie privée non régie. Le ministre de la Famille, Luc Fortin, l'a annoncé hier après-midi en déposant des amendements lors de l'étude du projet de loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatif à l'enfance. Cette mesure controversée a provoqué la colère de milliers de propriétaires de services de garde en milieu familial qui ont cinq ou six enfants à charge. Elle les aurait forcés de s'adapter à une série de normes plus contraignantes. La seule façon d'échapper à ces normes coûteuses aurait été de ne conserver que 4 bambins, une décision qui aurait acculé les éducatrices à la faillite.
« matin, le sort en est jeté, et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles, je déjouerai la mort, je viendrai quand tu m'appelles. Je t'aime, je t'aime, et déjà cet amour érigé en système enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution que tombent les statues et que résonne ton prénom.
De son album La Grande Nuit Vidéo, c'était Philippe B qui nous disait, nous chantait Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Salon du Livre de Montréal. Pardon. Le prix Marcel Couture remis à Jean-François Nadeau et aux Éditions de l'Homme. Jean-François Nadeau et les Éditions de l'Homme ont reçu mercredi soir, lors de l'ouverture du Salon du Livre de Montréal, le prix d'excellence Marcel Couture pour le beau livre « Les Montréalais, portrait d'une histoire ». Ce prix, décerné depuis 17 ans, veut souligner la qualité remarquable d'un livre illustré et veut récompenser le travail extraordinaire déployé par un éditeur québécois. L'album des Éditions de l'Homme, signé par Jean-François Nadeau, journaliste et chroniqueur au Devoir, constitue en cette année du 375e anniversaire de Montréal un admirable hommage aux Montréalais et aux Montréalaises selon le jury du prix. La presse s'associe au Salon du Livre pour offrir un placement publicitaire d'une valeur de 10 000 $ au lauréat. Marcel Couture, qui a fondé la revue Force et présidé les fêtes nationales du Québec de 1975 à 1980, a présidé le conseil d'administration du Salon de 1990 à 1998. Il est aussi étroitement associé à l'histoire du Devoir, puisqu'il a longtemps présidé le conseil d'administration du journal. Mercredi soir, le Salon du Livre a également décerné le prix Fleury-Mesplet 2017 à Robert Soulière, afin de souligner son apport indéniable à la littérature jeunesse au Québec et au Canada. Robert Soulière a publié pas moins de 52 albums ou courts romans, 17 romans pour adolescents et 22 nouvelles. La 40e édition du Salon du Livre, qui se tient à la Place Bonaventure de Montréal, se poursuit. Jusqu'au 20 novembre, le Salon a tenu aussi à rendre hommage à Michel Tremblay, lui décernant le titre « Ténor du Salon du Livre de Montréal ».
Thank you.
La gomme à mâcher décortiquée. On sait qu'il n'y a pas de sucre dans la gomme à mâcher sans sucre, ce qui ne veut pas dire qu'on sait déchiffrer la liste des ingrédients au nom bizarre qu'elle contient ni leurs effets sur nos dents ou sur notre système digestif. Lexique et explication, c'est un article d'Alexandre Vigneault dans la presse d'aujourd'hui. Base de gomme, l'ingrédient principal de la gomme, c'est ce qui se mastique et qui est justement désigné par base de gomme. Il s'agit de polymères de classe alimentaire, précise le site de Cafosa, un important fournisseur de gomme de base. Il ne faut pas lire polymère comme un synonyme de plastique, précise toutefois Valérie Orsat, professeure en génie des bioressources à l'Université McGill. Ce terme sert d'abord à décrire la structure moléculaire d'un produit. Ce qui est désormais utilisé dans la gomme est une version synthétique du chicle, un latex tiré d'un arbre tropical nommé sapotillé, qui a déjà été la base de la gomme à mâcher. Celle commercialisée sous le nom de Chicza et bio est faite avec du chicle. Les OL, mannitol, sorbitol, maltitol, xylitol, tous ces ingrédients en ol sont des édulcorants qui font partie de la famille des polyols ou polyalcools. Ils sont moins sucrés que le sucre et leur valeur énergétique est également plus faible, explique Sylvie Turgeon, professeure au département des sciences des aliments de l'Université Laval. Par contre, ils ont tendance à fermenter dans l'intestin. Ça peut causer des ballonnements, dit-elle. On voit des études qui démontrent une petite perturbation au niveau du microbiote intestinal, souligne aussi Amélie Charret, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Université Laval, mais pas à des doses faibles comme celles qu'on retrouve dans la gomme. Effet protecteur contre la carie. Les polyols sont associés à une réduction des caries, mais ne sont pas tous égaux. Le xylitol aurait en effet un avantage sur les autres. Il inhibe la croissance des bactéries responsables du développement de la carie, résume Sylvie Turgeon. Mâcher de la gomme sans sucre aurait aussi un effet protecteur contre la carie puisque ce geste active la salivation et que la salive contribue à neutraliser le pH de la cavité buccale. L'acidité de la bouche, elle, favorise le développement des caries. Le cas de l'aspartame. L'aspartame a fait couler beaucoup d'encre, notamment après qu'une recherche menée sur des animaux eut conclu que cet édulcorant pouvait être cancérogène. Il faut comprendre, c'était des doses très élevées, précise toutefois la nutritionniste et chercheuse Amélie Charret. Santé Canada, tout comme son équivalent européen, conclut aujourd'hui à son innocuité dans le respect de la dose journalière recommandée. Rien n'indique que la consommation d'aliments contenant cet édulcorant poserait un danger pour la santé des consommateurs, est-il écrit sur le site Internet de l'organisme fédéral. Les cires de carnauba et de candelilla sont des produits d'origine végétale, respectivement tirés d'un arbre et d'un arbuste. Surtout utilisées sur les bonbons, elles sont considérées comme des agents de satinage ou de glaçage par Santé Canada. Elles servent à donner un fini brillant au produit et, dans certains cas, à en favoriser la conservation. En manger ou pas? Aucune des spécialistes en nutrition consultées n'a trouvé d'effet négatif à la consommation de gomme à mâcher sur le système digestif. Jacinthe Côté dit que la littérature scientifique parle même de bénéfices. Mastiquer de la gomme activerait en effet le réflexe céphalique de la digestion. En plus d'activer la salivation, il inciterait l'estomac à sécréter de l'acide gastrique. Mâcher de la gomme aiderait à repartir le système digestif après une intervention chirurgicale, souligne aussi la nutritionniste. Elle pointe par ailleurs une étude qui démontrerait aussi un effet positif sur l'oxygénation du cortex préfrontal, une aire du cerveau notamment associée au contrôle des mouvements et la concentration. La gomme à mâcher décortiquée par Alexandre Vigneault.
We'll be right back.
La chronique resto de Thierry Darèze, le dur à cuire, un dur au cœur tendre. Ouvert il y a 4 ans, l'un des meilleurs restaurants à porter votre vin de la province garde le cap. Cette nouvelle visite me confirme que la qualité reste le leitmotiv de ce dur à cuire au cœur tendre. Dur, car les gens ici travaillent fort pour satisfaire la clientèle fidèle, mais tendre, car le plaisir de faire plaisir est évident. Apportez votre vin et du bon, car les plats proposés, surtout carnés, sont bien délicieux. Les cuisiniers se donnent beaucoup de mal pour apporter dans chaque assiette une originalité savoureuse. Menu dégustation possible, moyennant 15 $ avec un ajout d'amuse-bouche, trou normand et dessert inclus. Un aménagement simple et chaleureux. On s'y sent bien, cuisine ouverte au fond, où l'on peut voir les cuisiniers s'affairer. Un restaurant sur la rive sud, très prisé par les petits groupes. Clientèle en tout temps, il est préférable de réserver, surtout avec les parties de fête, des fêtes à venir. Vous êtes prévenus. Les clients sont principalement de la rive sud, mais il est assez facile de partir de Montréal et de se rendre au dur à cuire en 15 minutes. Stationnement aisé autour du resto, ça aussi, c'est un incitatif. Le repas, nous avons choisi le grand menu. En amuse-bouche, une belle huître avec un concassé de légumes marinés et une croquette de smoked meat. C'est un bon début. Le salin de l'huître et des légumes marinés réveille les papilles gustatives. Le côté gras de la croquette et son assaisonnement invitent agréablement la suite du repas. Savoureux trou normand à la pomme entre les deux services. Date medjoule farcie à la saucisse de Toulouse, mousse de foie de volaille, cresson, oignon mariné. Beaucoup d'audace et de technique. Du chaud, du froid, du sucré, du salé, du croquant, du mousseux. Une mousse de foie sans être un crémeux aurait été mieux. C'était toutefois très bon. Boudin maison, mousseline de pommes de terre truffées, salade de pommes. Encore un siphon pour la mousseline, le nuage s'évapore rapidement. Le boudin est trop puissant. En épices, surtout en clou de girofle, il nous fait perdre la saveur du sang cuit. Trop d'épices tue le goût. Short rib de bœuf laqué, pierogi ou pierogi au gouda fumé, jalapenos, chimichurri. Le plat de la soirée, c'est vraiment une réussite. Cuit comme il se doit, savoureux à souhait, la viande s'y filoche merveilleusement bien, accompagnée par 2 pierogis volumineux et bien garnis. C'est riche, mais délicieux. Est-ce que c'est pierogis ou pierogi? En tout cas, oui, pierogi, selon Mathieu. Ça s'appelle P-I-E-R-O-G-I. C'est riche, mais délicieux. Un joli plat qui mérite amplement ses 4 étoiles et plus. Spätzle, braisé d'agneau, champignons, idem pour les spätzle. Toujours servi trop sec dans les restaurants. Ici, c'est onctueux, l'agneau braisé et savoureux. Un bel assemblage bien assaisonné, top! On se régale. Poire pochée, crémeux au chocolat blanc, amandes, graham. La poire est bien cuite, le croquant aux amandes est bien fait, l'ensemble manque d'un peu de fraîcheur et le chocolat blanc manque de punch. Crémeux, citron, noisette caramélisée, faume, pistache. C'est une verrine pour me réconcilier avec le genre, écrit Thierry Darèze. Celle-ci est parfaite. Le mariage citron-pistache fait mouche. Une vraie gourmandise. Le service, jeune, sympathique, charmant. On devine le plaisir. Au travail, c'est bien agréable. Le dur à cuire, 219 rue Saint-Jean à Longueuil. Coup de toque, un des meilleurs restaurants porter votre vin du Québec en entier. De torchon, les entrées sont un peu onéreuses. Thierry Darèze.
Suggestion. It soaks through your skin, 'cause it comes from within, so you can hide it from anyone. And the clouds ain't so high anymore, since my head and my ears left the floor. Oh, I want watch you, I watch you pick up a little feather and put it in your pocket. Give me a little kiss on my lips. Mm-hmm. Pick up a little feather. See you later.
Elle s'appelle Wallace Bird et c'était la chanson Feathered Pocket.
Actualité internationale, un torrent de boue a déferlé hier matin sur deux localités de la grande banlieue d'Athènes après des pluies diluviennes tuant au moins 15 personnes, pour la plupart des personnes âgées, selon les premières informations des pompiers. Certaines ont été piégées à leur domicile, comme deux octogénaires habitant des sous-sols, d'autres ont été emportées par les eaux alors qu'elles se trouvaient dehors ou dans leur véhicule. « C'est venu comme un tsunami », a témoigné un commerçant dont le magasin a été totalement ravagé. Dévalant des pentes proches après des pluies violentes dans la nuit, des torrents de boue ont envahi tôt dans la matinée les deux localités de Nea Peramos et Mandra, situées à 50 km à l'ouest d'Athènes. L'armée du Zimbabwe contrôle la capitale et le diffuseur public. Le président Robert Mugabe et sa femme Grace sont en résidence surveillée et le règne du plus vieux chef d'État de la planète semble terminé. L'armée a beau répéter qu'il n'y a pas de prise de contrôle militaire et qu'elle veut restaurer la démocratie, tout porte à croire que M. Mugabe a été chassé du pouvoir après 37 ans dans le cadre de ce que les partisans de l'armée appellent une correction sans effusion de sang. Des émissaires envoyés par l'Afrique du Sud et d'autres pays essaieront de négocier avec les généraux et M. Mugabe pour assurer une transition pacifique. Les habitants de la capitale, Harare, ont contribué au calme en vaquant à leurs occupations habituelles, en dépit de la présence dans les rues de soldats armés montés sur des blindés. L'Ohio a dû suspendre hier sa tentative d'exécuter un condamné gravement malade, les agents pénitentiaires ne parvenant pas à lui trouver une veine suffisamment solide pour supporter la perfusion de substances mortelles. Alva Campbell, 69 ans, avait été condamnée à la peine capitale pour le meurtre d'un jeune homme de 18 ans en 1997. Durant de longues minutes, les agents ont tenté de lui poser sur un bras ou une jambe un cathéter veineux afin d'administrer l'injection létale. Ils ont finalement renoncé. Une nouvelle date d'exécution va être fixée, a confirmé Joe Ellen Smith, porte-parole des services pénitentiaires de l'État. L'Union américaine pour les libertés civiles de l'Ohio a dénoncé dans un communiqué la séance de près de 2 heures de torture infligée aux prisonniers qui avaient été transportés en fauteuil roulant jusqu'à la salle d'exécution. Le premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri devrait, selon l'Élysée, arriver en France dans les prochains jours à l'invitation d'Emmanuel Macron. M. Hariri se trouve dans la capitale saoudienne depuis qu'il y a annoncé le 4 novembre sa démission surprise. Ces dernières heures, le président libanais Michel Aoun a durci le ton contre Riyad, l'accusant de détenir le dirigeant démissionnaire, tandis que la France a accentué la pression en faveur de son retour au Liban. Le président français, très actif dans ce dossier depuis 10 jours, avait redemandé mercredi matin que M. Hariri puisse rentrer au Liban pour y confirmer sa volonté de démissionner. Les cultivateurs d'opium d'Afghanistan ont enregistré une récolte exceptionnelle cette année avec une production en hausse de 87 % grâce à un record de surface cultivée selon un rapport rendu public mercredi. La valeur de l'opium produit par les fermiers a atteint près de 1,4 milliard US en hausse de 55 % selon cette étude annuelle de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Une manne qui contribue à financer l'insurrection qui déstabilise le pays. Une évolution à mettre essentiellement sur le compte de l'insécurité croissante, du manque de contrôle par les autorités, de la corruption ainsi que du manque de perspectives en matière d'emploi et d'éducation, selon ce rapport compilé par l'agence onusienne et par le ministère afghan de la lutte contre les stupéfiants. Le pape François a reçu hier une Lamborghini blanche, un modèle unique qui n'est pas destiné à remplacer sa célèbre Pape Mobile, mais sera mis aux enchères pour financer 4 projets caritatifs. Le souverain pontife a béni la voiture de sport Lamborghini Huracan ou Huracan et a apposé sa signature sur le capot en présence de dirigeants du constructeur automobile venus livrer le modèle au Vatican. Le bolide, qui ne fendra jamais la foule de la place Saint-Pierre, sera confié à la maison de vente Sotheby's pour des enchères prometteuses. Actualité culturelle maintenant. Alors, aujourd'hui, en une, il y a de la presse, Juste pour rire, optimiste pour la suite. La démission de Gilbert Ozon à la tête du groupe Juste pour rire apporte plus de questions que de réponses. Aussi, on parle d'un théâtre Gilles Vigneault, un écrin où tout est à faire. Et je vais vous lire de bons passages de cet article signé Alain de Repentigny. Un écrin où tout est encore à faire. Quand on lui a fait part du projet de nommer un théâtre en son nom, rue de la Gare à Saint-Jérôme, Gilles Vigneault n'a pas hésité longtemps. J'ai dit oui tout de suite. Avoir son nom sur un véhicule de transmission, c'est aussi honorable que de l'avoir sur une compagnie, l'un ne déparant pas l'autre. Alors j'ai accepté. Je ne dirai pas humblement, mais je devrais, ajoute en riant l'artiste. Alors j'ai accepté. Je ne dirai pas humblement, mais je devrais. Ajoute en riant l'artiste vigoureux dont on ne devinerait jamais qu'il vient de fêter ses 89 ans le mois dernier. L'important pour lui, nous a-t-il expliqué il y a quelques semaines dans son atelier à Saint-Placide, c'était qu'on donne son nom à une cause qui lui ressemble, un théâtre où l'on présenterait tous les genres de spectacles. Tous les spectacles ou presque sont des occasions pour les gens de se distraire de la routine du jour et de la fatigue aussi, dit-il. Quand ce ne sert qu'à ça, c'est encore bon. Quand ça sert à leur apprendre des choses sur leur propre vie et sur la vie des autres ailleurs, et quand ça sert à déjouer la peur qu'on a de l'autre, là, ça vaut la peine. L'art, tous les arts sont propices à ça. Conçu par l'équipe d'architecture Atelier TAG plus Jodoin Lamar Pratt, le théâtre Gilles Vigneault sera avec ses 860 sièges la plus grande salle de spectacle des Laurentides. Gilles Vigneault y voit surtout un lieu où tout est encore à faire. La boîte est faite, et je dis le mot « boîte » avec un grand respect. Le véhicule est fait, mais personne n'est embarqué dedans encore. C'est comme ces écrins qu'on prépare avec grand soin pour offrir un bijou. Il arrive que l'écrin vaille autant que le bijou, et plus des fois, mais il faut faire l'écrin de façon à ce que le bijou ressorte encore plus rare, plus beau, plus coûteux. C'est appelé à transporter du bonheur, de la tristesse, des émotions, des sentiments, des fois de la peur, mais aussi rarement que possible. Alors, rire, entre parenthèses, les rires de M. Vigneault, de la bienveillance, de l'amour, c'est appelé à jouer avec tout ça, avec les sentiments et les émotions du peuple. Et ça, c'est très précieux, dit Gilles Vigneault à propos du théâtre qui porte son nom. Précieux comme le souvenir qu'il a conservé de sa présence sur scène dans une salle comme le Bobino parisien. Ça me rappelle toujours ces vieilles salles où il y a eu des émotions, des applaudissements, des cris, des critiques, des hurrahs, des bravis de semer dans la salle et dont les murs se sont imprégnés lance-t-il. C'était très émouvant de se retrouver à chanter la danse à Saint-Dilon ou quand vous mourrez de nos amours dans un endroit où Trenet avait chanté, la Piaf avait chanté, puis Brassens, Catherine Sauvage, Brel, Béart, Félix, etc. Comme dans tout métier, quand on est en place, on sent des choses que ceux qui ne sont pas du métier ne sentent pas. C'est normal. Cela dit, Gilles Vigneault ne s'attendait pas du tout à ce qu'on nomme un théâtre en son nom. Dans son attache-coin natal, la petite boîte de spectacle se nomme L'Échourie et c'est fort bien ainsi. Ça n'avait pas d'importance que ça porte le nom de Gilles Vigneault. Il n'y a pas de rue Gilles Vigneault à Natashquan, il n'y a pas de statue et ça presse pas. On va vivre avant, lance-t-il en pouffant de rire. Mais puisqu'il est question de se vanter, j'ai deux écoles qui portent mon nom. Une à Montréal, avenue de Poutrincourt, et une à Marseille. Ça fait plaisir. Sur la Côte-Nord, il y a une école qui s'appelle La Manicoutée, sur le lac Léman, j'ai vu un bateau qui s'appelait La Manicoutée et j'en ai vu d'autres qui s'appelaient Natashquan ailleurs. Mais ça, c'est la rigolade ordinaire. Ces jours-ci, Gilles Vigneault profite de vacances au Mexique, où il a ses habitudes. Après les fêtes, il animera à Saint-Placide l'atelier d'écriture de chansons pour auteurs-compositeurs professionnels qu'il a créé en 2010, puis, au printemps, il recommencera à donner ses spectacles « Paroles et musique », dont la formule lui plaît beaucoup parce qu'elle repose sur un échange avec le public. Gilles Vigneault a également dans ses cartons pas moins de 7 chansons inédites qui paraîtront un jour sur un nouvel album, mais rien ne presse, ajoute-t-il. Entre-temps, le public pourra visiter le théâtre Gilles Vigneault à l'occasion d'une activité portes ouvertes les 25 et 26 novembre. C'est Claude Dubois qui donnera le premier spectacle à guichet fermé le 29 novembre, mais la soirée inaugurale officielle n'aura lieu que le 18 janvier 2018, alors que l'Orchestre symphonique de Laval s'y produira. Le 28 mai prochain, la soirée bénéfice de la Fondation En scène, mise sur pied sur le, par le diffuseur du même nom, qui est le maître d'œuvre, gestionnaire et propriétaire du théâtre, consistera en un spectacle hommage à Gilles Vigneault, mais à ce jour, la présence de M. Vigneault n'a pas été confirmée. Je vais dire une drôle de chose. Ce n'est pas inopportun que la salle soit inaugurée sans que je sois là, dit-il. Elle sera inaugurée par moi quand j'irai. Mais ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est qu'il y ait là un véhicule et que beaucoup de monde embarque dedans pour aller vers les contrées du rêve.
Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que des ruisseaux dans le secret des bois deviennent des rivières, moi, moi, je t'aime, moi, moi, je t'aime. Pendant que le soleil par-dessus les nuages fait ses nuits et ses jours, pendant que ses pareils continuent leur voyage, chargés d'autant d'amour. Moi, moi, je t'aime. Moi, moi, je t'aime.
Pendant que c'était Gilles Vigneault, 450,3 millions, c'est la somme en dollars américains atteinte par un tableau du peintre italien Léonard de Vinci lors d'enchères à New York hier. La vente conclue en 19 minutes a pulvérisé le record de la toile la plus chère du monde. L'identité de l'acheteur, du Salvatore Mundi, n'a pas été dévoilée par la maison d'enchères Christie's. Ironie du sort, le tableau avait été vendu 45 livres sterling en 1958, bien avant que son authenticité n'ait été reconnue. Les journaux régionaux, une marche pour les droits des enfants, c'est Brigitte Trahan dans le Nouvelliste, dans le cadre de la Journée nationale des enfants. Espace Mauricie organise une marche symbolique, sa cinquième, afin de mettre en évidence les droits des enfants. L'organisme tiendra cette activité en collaboration avec l'École Saint-Paul de Trois-Rivières, la ressource FER et le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Le départ aura lieu le 20 novembre à 10h15 de la cour arrière de l'école Saint-Paul au 94 rue Saint-Paul. La marche se tiendra sur une distance d'environ 1 km et près d'une centaine de personnes y sont attendues, dont des enfants et des représentants d'organismes communautaires. La Journée nationale des enfants a été décrétée par les Nations unies à la suite de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Le Canada a décrété en 1993 le 20 novembre comme étant la Journée nationale des enfants. Depuis plus de 25 ans, Espace Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violences faites aux enfants. L'organisme invite la population à souligner cette journée en portant le ruban bleu qui rappelle que les enfants doivent être pris en considération dans l'ensemble des décisions de l'État. Espace Mauricie a informé et outillé plus de 32 000 enfants et 9 300 adultes depuis sa création en 1999. Au Canada, il se produit un cas d'intimidation toutes les 7 minutes dans une cour d'école, tandis qu'une fille sur 3 et un garçon sur 6 subiront une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, indique l'organisme en ajoutant que dans une classe, 2 enfants sur 6 sont exposés à des actes de violence conjugale sur leur mère. Et dans le Nouvelliste, toujours, la maison des grands-parents souffle 15 bougies. La maison des grands-parents de Trois-Rivières célèbre cette année son 15e anniversaire, un événement qui ne passera pas inaperçu puisqu'une grande fête est prévue en décembre afin de souligner la contribution des bénévoles et partenaires qui ont œuvré à la vitalité de l'organisme. Une personnalité de la région, Carole Kane, retraitée et conseillère aux entreprises chez Stratégie Carrière, a été choisie pour assumer la présidence d'honneur. La Maison des grands-parents amorce du même élan un nouveau projet et pour lequel les nouveaux bénévoles sont les bienvenus. Il s'agit de l'éveil à la lecture qui s'adresse aux plus jeunes. Ce projet initié par le ministère de l'Éducation du Québec souhaite créer des impacts positifs sur la réussite scolaire des enfants, de même que sur la qualité de vie et le bien-être des aînés, puisqu'il permet de briser l'isolement dont plusieurs souffrent. L'organisme offrira aux personnes intéressées à prendre part à cette initiative de la formation, de l'encadrement et un suivi. La Maison des grands-parents de Trois-Rivières organise une foule d'activités touchant les plans physiques, psycho-émotionnels, intellectuels, socioculturels et environnementaux, de même que la vie intérieure. Dans le soleil, Élisabeth Fleury, QS, dépose un projet de loi anti-burnout. Québec solidaire a déposé mercredi un projet de loi visant à favoriser la conciliation travail-famille et à contrer le fléau des burnout. Il propose notamment qu'un salarié puisse connaître son horaire de travail au moins 7 jours à l'avance et qu'il puisse refuser de faire du temps supplémentaire. Le projet de loi déposé par Gabrielle Nadeau-Dubois modifie la loi sur les normes du travail afin d'améliorer les diverses conditions minimales de travail. Outre le droit du salarié de connaître son horaire au moins une semaine à l'avance et de refuser de faire du temps supplémentaire, le projet de loi ajoute 2 jours fériés et chômés de plus, soit le 8 mars, Journée internationale des femmes, et le 1er mai, Fête des travailleurs. Dans le droit, Daniel Leblanc, coup de pouce pour les prématurés. Aujourd'hui, à peu près rien n'y paraît tellement ils sont en forme et que leur croissance est normale, même au-delà de la moyenne. Mais les premiers mois de vie de Philippe, 4 ans, et de sa sœur Catherine, 2 ans, ont été synonymes de montagnes russes d'émotions pour leurs parents. Comme quelques 1300 autres nouveau-nés par année à l'hôpital d'Ottawa, tous les deux sont nés prématurément, ayant vu le jour respectivement après 26 et 24 semaines. Ils sont de très grands prématurés. Philippe a été hospitalisé pendant 2 mois et demi après sa naissance, alors que pour Catherine, ça a été 3 mois et demi. Il y avait une grosse infection dans mon placenta et on ne le savait pas. Pour un parent, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est stressant. Tu dors à la maison avec le téléphone de la maison et ton cellulaire à côté de ton oreille, avec le volume au maximum, au cas où on reçoit un appel durant la nuit, raconte la mère Patricia Anne Croteau. À 2 jours de la Journée mondiale de la prématurité, elle et son conjoint Claude faisaient partie des dizaines de familles qui ont assisté mercredi au dévoilement du nouveau programme de soins de soutien de la Banque Scotia. L'institution a annoncé un don de 500 000 $ dédié à la campagne de financement de la Fondation de l'Hôpital d'Ottawa pour les travaux de modernisation de l'unité des soins intensifs néonataux du campus général. Et de retour dans le soleil, sous la plume de Jean-Marc Salvet, aménagement d'un cimetière, les référendums enterrés. Les maires du Québec ne seront plus tenus de consulter les citoyens par référendum pour établir un cimetière, un mausolée ou un colombarium. C'est ce que prévoit très explicitement un projet de loi présenté mercredi à l'Assemblée nationale par le ministre Martin Coiteux. En matière d'urbanisme, le projet de loi dispense de l'approbation référendaire les modifications réglementaires visant à permettre l'établissement d'un cimetière, d'un mausolée ou d'un colombarium. Peut-on lire dans les attendus d'un projet de loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et touchant aussi à la Société d'habitation du Québec? En juillet, des citoyens de Saint-Apollinaire ont refusé lors d'un référendum qu'un cimetière musulman soit installé sur le territoire de leur municipalité. 36 personnes ont participé à la consultation, 19 se sont prononcées contre, 16 pour. Un bulletin de vote a été rejeté. Seuls les électeurs habitant la zone visée pouvaient voter. Quelques semaines après l'attentat ayant tué 6 personnes à la Grande Mosquée de Québec, le maire de Saint-Apollinaire, Bernard Ouellette, s'était montré favorable à ce projet de cimetière musulman. Mais il avait dû tenir un référendum en raison des règles en vigueur. La réalisation du projet nécessitait un changement de zonage. Martin Coiteux, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ne cache pas que cet épisode a pesé dans la rédaction de cette partie de son projet de loi. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Les voies de service quotidien. Et puis, c'est Hélène Denis qui vous invite à rester à l'écoute si vous êtes... À l'écoute en direct, l'émission Les Paractualités suit. J'aurai le grand plaisir d'accueillir Sophie Bienvenue, une des invitées d'honneur du Salon du livre de Montréal. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical.